Camille, donc tu es en thèse à l'école d'économie de Paris avec Thomas Piketty. Tu travailles plus spécifiquement sur la question des hauts revenus et le comportement des personnes à hauts revenus. Et donc tu as réalisé cet été un travail sur l'évolution des inégalités, notamment donc l'évolution des très hauts revenus en France. Donc suite en fait aux travaux de Thomas Piketty sur l'évolution de ses revenus tout au long du XXe siècle, toi tu t'intéresses plus particulièrement aux toutes dernières évolutions. Thomas Piketty s'est arrêté en 98, donc toi tu travailles sur 98 et 2005. Et donc première question, pourquoi s'intéresser à la question des inégalités et notamment des inégalités par rapport à l'évolution des très hauts revenus en France?
Alors pour comprendre un peu tout ça, ce dont il faut se rendre compte, c'est que dans les inégalités, il existe tout un tas de mesures qui sont différentes. Et la mesure qui s'intéresse au poids des hauts revenus dans les revenus totaux est particulièrement éclairante pour nous. Parce qu'en fait, ce qu'on sait depuis le milieu des années 80, c'est que toutes les inégalités qui sont concentrées au bas de la distribution des revenus, c'est-à-dire tout ce qui va être mesure de la pauvreté, ce genre de choses. Hein, pour mémoire, la pauvreté, elle est toujours définie par rapport, par rapport au revenu médian. Hein, donc finalement, tout ce qu'on regarde en regardant la pauvreté, c'est tout ce qui se passe dans le bas de la distribution des revenus. Or, on voyait depuis le milieu des années 80, dans les domaines de l'INSEE, plutôt une stabilisation des inégalités, hein, une baisse de la pauvreté au début des années 80, début des années 90, création du RMI, ce genre de choses, grosse politique de minima sociaux, donc baisse de la pauvreté, tout ça. Or, on constatait dans le ressenti des individus plutôt un sentiment de hausse des inégalités récentes. Mais cette mesure focalisée sur le bas de la distribution ne nous donnait aucun indice d'une augmentation des inégalités. Or, ce qui se passe au niveau du haut de la distribution est particulièrement important pour l'ensemble des inégalités parce que les hauts revenus détiennent une part très importante du revenu total. En particulier, par exemple, les 10% des revenus les plus élevés détiennent 33% de l'ensemble des revenus. Hein, donc dès qu'il se passe quelque chose chez eux, dès que leur revenu augmente, ça joue sur la répartition totale du gâteau et de manière relativement importante. Or, le problème de ces très hauts revenus, c'est qu'on ne les appréhende pas très facilement. Parce qu'on a d'un côté tout ce qui est fait par l'INSEE qui va être des données d'enquête. Les données d'enquête, qu'est-ce qui se passe? On tire des individus à partir de la distribution qu'on connaît de ces individus dans le recensement. Mais dans le recensement, on ne demande aucune information sur le revenu. Donc il n'y a aucune chance pour que, en calant la distribution, le tirage de notre échantillon sur bêtement la distribution par âge, hein, on tire des hauts revenus. D'accord? Donc typiquement, ces enquêtes de l'INSEE ne peuvent rien nous dire sur ce qui se passe au niveau des hauts revenus. Mais il y a une autre source qui existe, et c'est la source que Thomas Piketty avait déjà utilisée et que j'utilise moi-même, qui est les données fiscales. Les données fiscales sont exhaustives, donc elles nous donnent la masse totale des revenus, et en particulier, elles découpent ce qui se passe au niveau des très hauts revenus, donc on peut les suivre très finement.
Et donc, à partir de ces données, tes sources, sont quoi tes principaux résultats sur l'évolution récente de 1998 à 2005 pour l'évolution des hauts revenus? Et comment ils se comparent avec l'évolution précédente dans les 30 années précédentes, par exemple?
Alors, c'est particulièrement intéressant parce qu'on constate un creusement des inégalités sur la période récente, mesuré justement par cette part des hauts revenus dans les revenus totaux. Et ça, c'est lié à une augmentation très forte des hauts revenus, mais une augmentation très concentrée, pas sur l'ensemble des hauts revenus, mais vraiment sur les très très hauts revenus. C'est-à-dire qu'on constate sur la période 98-2005 que les revenus primaires nets des 0,01% des foyers les plus riches, ça représente à peu près 3500 foyers, a augmenté de 98 à 2005 de près de 45%. Dans le même temps, le revenu de 90% des foyers augmentait d'à peine 5%. Donc on a vraiment quelque chose comme un très fort hiatus entre une fraction des hauts revenus qui est très petite et dont le revenu augmente très très rapidement, et de l'autre, la grande masse de la population totale qui voit son revenu plutôt stagner, hein, compte tenu de l'évolution globale de la productivité sur la période. Donc ça, c'est le premier résultat. Après, quand on essaye d'aller un tout petit peu plus loin, de savoir quels sont les déterminants de cette hausse très très concentrée des hauts revenus, on se rend compte que la première raison, c'est tout bêtement un effet de composition. C'est-à-dire que les très très hauts revenus sont assez particuliers, en ce sens qu'ils sont composés en majorité de revenus du capital. Hein. C'est ce qui va être dividendes, plus-value, revenus immobiliers. Or, pour l'ensemble de la population, 85-90% des revenus sont des revenus d'activité ou des pensions pour les retraités. Hein, mais donc on a aussi ce hiatus dans la composition entre une très très petite frange de la population qu'on peut appeler des rentiers, quoi, et de l'autre des gens qui gagnent leurs revenus de revenus d'activité. Or, sur la période 98-2005, les revenus de patrimoine, les revenus du capital ont augmenté plus vite que les revenus d'activité, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que on a eu ce mouvement de croissance assez rapide des prix immobiliers et donc un marché d'immobilier assez actif qui a attiré beaucoup les revenus des revenus des propriétés foncières vers le haut. Et aussi dans le même temps, tout ce qui va être revenu immobilier, en particulier les dividendes, hein, ont vraiment explosé sur la période. On a quelques pistes d'explication, mais ça reste quand même encore un mystère. La première explication, c'est que il y a une financiarisation beaucoup plus grande de l'économie. Donc toutes les entreprises qui sont en société de des sociétés par action, hein, vont chercher à attirer les épargnants en versant des dividendes élevés. Ça, c'est la première explication. Hein, l'autre explication, c'est que servir des dividendes élevés, ça peut être aussi un moyen pour les actionnaires de contrôler les actions des managers dans ces sociétés. Hein, parce que si une société fait beaucoup de profits et que le manager devient un peu fou et se décide dans un mouvement complètement incontrôlé d'acquisition multiple, c'est un peu dangereux, donc les actionnaires préfèrent contrôler ça en prenant une large partie des profits sous forme de dividendes. Voilà. Donc ça, c'est un peu la première explication vraiment d'un effet de composition. Mais il y a une autre chose qu'il faut mentionner qui est sans doute beaucoup plus importante pour l'ensemble de la population, enfin son destin, c'est qu'on a cassé les hiérarchies salariales entre 1998 et 2005. Enfin, depuis le milieu des années 90, on assiste à une croissance extrêmement rapide des hauts salaires. Donc là, on sort de la question revenu du patrimoine versus revenu d'activité. Au sein même des revenus d'activité, ce qu'on constate, c'est une inégalité beaucoup plus grande et qui est là aussi concentrée sur une toute petite fraction des très hauts salaires. En gros, les 0,01% des salariés les mieux payés, pour reprendre la même mesure que précédemment pour l'ensemble des revenus. Donc là, ça va représenter à peu près 2800 salariés, ont vu leur salaire réel augmenter de plus de 50% sur la période, alors que dans le même temps, 90% des salaires augmentaient d'à peine 3,5%. Donc là, vraiment aussi, un énorme hiatus, et je pense que c'est un autre renseignement assez important de cette étude.
Donc Camille, tu nous dis que le creusement des inégalités de revenus est en partie dû à un creusement des inégalités salariales. En quoi tes résultats donc font écho aux travaux d'Olivier Gottschalk, qui avait travaillé sur les bonus des traders au début des années 2000 et qui récemment a produit une étude sur l'évolution des salaires au sein de la Société Générale?
Oui, alors ça se compare très bien. C'est-à-dire que ce que constate Olivier Gottschalk, c'est que depuis une quinzaine d'années, on a véritablement un changement dans les modes de rémunération et aussi dans les normes sociales de rémunération. En particulier, lui, ce qu'il constate, c'est que tout ce qui va se passer dans la banque, hein, c'est une attention beaucoup plus grande à l'intéressement par les bonus, ce genre de choses, qui fait que on a des écarts, une fois qu'on prend en compte les bonus et tous ces petits zakouskis, hein, en plus de la rémunération salariale classique, on arrive à des inégalités assez fortes, avec là encore des gros écarts entre une large fraction des salariés et le winner takes all, c'est-à-dire quelques-uns qui font les plus gros bonus. Ça, c'est assez en lien avec ce que nous-mêmes on peut constater à partir des données fiscales, c'est-à-dire que depuis le milieu des années 90, alors qu'on avait une grande stabilité de cette hiérarchie salariale avec les 1% des salariés les mieux payés, les 0,01% des salariés les mieux payés, qui avaient une part globalement stable dans l'ensemble de la masse salariale, on voit que depuis le milieu des années 90, cette part explose. Donc, ça peut être effectivement tout ce que raconte Olivier Gottschalk, une large part d'explication. Il ne faut pas non plus nier qu'il y a beaucoup de travaux qui se font, notamment outre-Atlantique, sur ces questions de la hausse des très très hauts salaires, que les Américains ont connu, eux, plutôt au début des années 80, avec des explications plus en termes d'économie de star. Hein, vous avez toute cette littérature autour de Rosen au tout départ, mais qui applique ça au sport, et des gens comme Gabay et Landier, hein, qui vont expliquer l'explosion de la rémunération des CEO, c'est-à-dire nos PDG, hein, par des effets de superstars, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises et qui sont classées en fonction de leur taille, et plus on est une grosse entreprise avec un gros capital, plus on a envie d'attirer quelqu'un qui soit très performant. Or, la taille de ces différentes entreprises est extrêmement différente, et au bout de la distribution des tailles d'entreprises, vous avez des entreprises dont la taille grossit très très vite. Si vous voulez, la plus grosse entreprise américaine fait 5 à 10 fois la taille de la deuxième entreprise. Donc bon, on a cette répartition très, très particulière. Donc du coup, il suffit que vous ayez des PDG qui soient en termes de qualification pas forcément très différents, mais celui qui a une toute petite différence en plus va être attiré tout de suite par la grosse boîte, et c'est cette répartition de la taille des boîtes très inégalitaire qui fait qu'ensuite les rémunérations elles-mêmes sont très inégalitaires. Un peu comme, si vous voulez, le champion de golf qui gagne le super grand tournoi de golf n'a pas besoin d'être vraiment incroyablement plus productif pour gagner beaucoup plus, parce que comme il n'y a qu'un seul grand tournoi de golf, il n'y a qu'un seul grand tournoi du Grand Chelem en tennis, il suffit d'avoir gagné ce tournoi pour, voilà, une fois de plus, winner takes all, le gagnant prend tout, et du coup on a des très très fortes inégalités de salaire.
Et cette hausse que tu constates, donc des très hauts salaires, cette dispersion salariale qu'on voit donc ces 10 dernières années en France, comment elle se compare avec le cas d'autres pays ? Bon, d'un côté, les pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, mais aussi les pays d'Europe continentale ou le Japon. Est-ce que ce sont des évolutions qu'on retrouve dans les autres pays, qui ont eu lieu, qui sont en train de se passer aussi ? Et d'autre part, ces évolutions, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment neuf dans l'histoire de la France, ou est-ce que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu dans le siècle précédent, notamment est-ce que ce sont des choses que Thomas Piketty constate quand il étudie les inégalités de revenus tout au long du XXe siècle?
C'est particulièrement intéressant parce qu'effectivement cette hausse des inégalités salariales d'abord qu'on constate en France sur la période récente, on la retrouve dans un certain nombre d'autres pays d'Europe continentale, typiquement l'Allemagne, il y a les travaux notamment de Cornéo, Backsteiner. On la retrouve aussi en Espagne, et on a d'autres pistes, mais sur des données qui sont moins immédiates, moins immédiatement récentes, pour d'autres pays européens, et typiquement les pays nordiques, comme quoi, oui, il y a des hausses d'inégalités salariales. Donc, effectivement, ça, on a l'impression qu'il se passe quelque chose de ce point de vue-là. Néanmoins, si on compare du point de vue des inégalités de salaire, mais aussi des inégalités de revenus, par rapport à ce qui s'est passé dans l'ensemble des pays anglo-saxons, on est encore loin du compte. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui, entre l'Europe continentale en général et les pays anglo-saxons, un énorme fossé du point de vue des inégalités, telles qu'on peut les mesurer par la part des hauts revenus dans le revenu total ou la part des hauts salaires dans les salaires totaux. Donc là, vraiment, il faut quand même être particulièrement vigilant là-dessus, parce que bon, on est dans des niveaux qui ne se comparent pas, hein, d'inégalités. Néanmoins, il y a plusieurs choses qu'il faut ajouter à cela. C'est que si, du coup, on est aujourd'hui à des niveaux qui sont relativement éloignés des niveaux qu'on retrouve dans les pays anglo-saxons, premièrement, on est sur des taux de croissance de la part des revenus dans le revenu total ou de simplement des hauts revenus qui sont tout à fait en ligne avec ce que les pays anglo-saxons ont connu au début des années 80, milieu des années 80, quand s'est jouée cette rupture avec, pour eux, cette évolution séculaire de baisse des inégalités. Hein, il y a eu un point de rupture dans les pays anglo-saxons au moment des années 80 avec une croissance assez rapide des hauts revenus. Aujourd'hui, pour ce qui est de l'Europe continentale, on constate des rythmes de croissance qui ne sont pas très éloignés. L'autre chose à mentionner, c'est que, du coup, les pays comme la France et les pays d'Europe continentale, par rapport au niveau historiquement très long des inégalités, c'est-à-dire si on remonte au premier XXe siècle, on est également assez loin de ces niveaux d'inégalités. C'est-à-dire que la France aujourd'hui n'est pas une société de rentiers comme elle l'était avant 14. Néanmoins, ce qu'on a constaté dans les pays anglo-saxons, c'est qu'à un rythme que la France connaît de croissance de revenus, en 15-20 ans, on peut retrouver une société de rentier. C'est-à-dire que pour les pays anglo-saxons, on a retrouvé les niveaux d'avant 14. Ce n'est pas le cas en France, mais ça pourrait le devenir. Donc ça pose vraiment, à mon sens, la question de la fiscalité, parce qu'on a constaté au début des années 80 dans les pays anglo-saxons partout des fortes baisses de la fiscalité, à la fois du capital et des revenus. Je pense que là se joue quelque chose d'assez central.
Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur le rôle de la fiscalité dans soit la création, soit dans la manière de résorber éventuellement aussi ces inégalités de revenus que l'on observe ?
Oui, alors c'est assez compliqué cette question de l'impact de la fiscalité sur les inégalités. Il y a en gros deux choses. C'est d'abord, est-ce que la fiscalité peut réduire les inégalités si on constate des très très forts niveaux d'inégalité? L'autre question, c'est est-ce que, à contrario, des baisses de fiscalité peuvent encourager une hausse des inégalités? Alors, pour la première question, ce qu'on sait, c'est que typiquement, dans le grand mouvement historique, depuis le début du XXe siècle, on avait cette grosse chute de la part des hauts revenus dans le revenu total, et qu'ensuite, après les années 1945-1950, on est resté à un niveau globalement stable. Ce qu'on sait, c'est que la fiscalité n'est pas à l'origine de cette baisse de la part des revenus dans le revenu total. Hein, c'est des événements beaucoup plus lourds, la très grosse dépression des années 30 plus, toutes les destructions massives de patrimoine engendrées par les deux guerres mondiales, qui ont opéré cette vaste redistribution des cartes. Ensuite, ce qu'a fait la fiscalité, c'est d'empêcher la reconstitution rapide des hauts patrimoines et donc du coup des hauts revenus. C'est relativement avéré, ça, parce que, bon, par exemple, par rapport à d'autres histoires nationales, typiquement l'histoire de l'Allemagne, hein, où la fiscalité sur les revenus a été beaucoup moins progressive au sortir de la guerre, bon, pour tout un tas d'autres raisons beaucoup plus historiques, hein, mais on a constaté une reconstitution beaucoup plus rapide des hauts patrimoines, et donc l'Allemagne a un niveau d'inégalité de revenus légèrement plus important que celui de la France à cause de cette reconstitution qui s'est opérée en une dizaine d'années juste après la guerre. Donc, bon, on sait que la fiscalité peut plutôt contrecarrer la formation rapide des inégalités de patrimoine et donc des inégalités de revenus. Et ça va se jouer pas uniquement au niveau de la fiscalité des revenus, mais aussi beaucoup au niveau de la fiscalité des patrimoines et notamment de la transmission des patrimoines, les successions. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect. L'autre aspect, c'est est-ce que la baisse de la fiscalité, typiquement ce qu'on constate dans la plupart des pays européens, ce qu'on avait constaté dans les pays anglo-saxons, peut, elle, encourager la formation des inégalités? Alors là, c'est une question beaucoup plus débattue. Ce qu'on sait, c'est qu'à relativement court terme, on a effectivement une réponse des hauts revenus relativement forte aux baisses de taux marginaux supérieurs de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que quand vous modifiez le barème en rendant le barème moins progressif, en coupant les taux marginaux supérieurs qu'on accuse toujours d'être trop élevés, tout ça, bon, dans ce cas-là, vous avez une réaction des hauts revenus. Mais c'est une réaction de très court terme et qui est souvent liée à des mécanismes tout bêtes d'optimisation. Typiquement, un dirigeant d'entreprise qui va avoir la possibilité d'arbitrer entre se verser des stock options cette année ou l'année d'après, ou ce genre de choses, hein, va verser l'année d'après pour bénéficier des taux marginaux supérieurs. Donc, bon, c'est plutôt des comportements d'optimisation. Mais sur le moyen terme, on a du mal à constater des vraies réponses à la fiscalité des revenus des inégalités. En revanche, pour ce qui est de la fiscalité qui n'est pas celle des revenus, mais plutôt celle du patrimoine, des revenus du capital et du stock de capital, typiquement l'ISF, on sait que ça, les baisses d'imposition, notamment de l'imposition des successions également, ont plutôt un impact là sur la reconcentration des patrimoines. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il est relativement important de se poser des questions sur le mouvement qu'on constate aujourd'hui dans la plupart des pays européens de concurrence fiscale. On a une sorte de mouvement à la baisse à la fois de la fiscalité des revenus, de la fiscalité des patrimoines, avec l'ensemble des pays européens qui suppriment leur imposition sur la fortune, c'est-à-dire sur le stock de capital, une baisse des taux marginaux supérieurs de l'impôt sur le revenu dans la plupart des pays, même beaucoup de pays qui parlent d'en venir à des flat tax, c'est-à-dire une taxe qui soit sur les revenus plus du tout progressive, mais à taux unique. Donc ça pose la question de savoir si on s'engage dans ce type de mouvement avec une concurrence assez forte entre les pays européens, est-ce que c'est pas ça qui pourrait expliquer que on a des trajectoires assez convergentes de l'ensemble des pays européens en termes d'inégalité de revenus aujourd'hui, qui se rapprochent des pays anglo-saxons? Donc, bon, je pense que c'est un gros enjeu, qui est encore largement à documenter, mais bon, c'est un vaste sujet de travail.
Mais finalement, pour conclure, toi, est-ce que tu dirais que la France a une société plutôt égalitaire ou une société plutôt inégalitaire?
C'est la question que tout le monde se pose. Je pense que ce qu'il est important de rappeler, c'est que du point de vue de ce qu'on a documenté là pour la période récente, la société française en termes d'inégalité statique, quand on regarde la distribution des revenus une année donnée, bon, elle est plutôt plus égalitaire que les pays anglo-saxons et plutôt un peu moins égalitaire que les pays nordiques. Mais finalement, les gens ne sont pas systématiquement intéressés par la distribution statique des revenus. Ce qu'ils ont envie de savoir, c'est bah, si aujourd'hui je fais partie des 90% des foyers les moins riches, est-ce que j'ai une chance de faire partie de ces 10% des foyers les plus riches. Donc la vraie question, du point de vue vraiment de la dimension psychologique, du ressenti des inégalités, c'est vraiment la question de la mobilité sociale. Ce qu'on sait sur la mobilité sociale, c'est qu'elle est relativement moyenne par rapport à deux pôles. D'un côté, les pays nordiques qui sont aussi très mobiles, et de l'autre côté, les pays anglo-saxons qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont des pays à la fois inégalitaires et aussi des pays à faible mobilité. Et pourquoi, en fait? Parce que tout le monde a l'impression que oui, les États-Unis, le pays des opportunités. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, l'inégalité des revenus aux États-Unis, elle est essentiellement le fait d'une concentration très très forte des patrimoines. Les patrimoines, comme je l'ai dit, les hauts revenus sont essentiellement des revenus du patrimoine, et quand vous avez des patrimoines très concentrés, vous avez des fortes inégalités de revenus. Or, les patrimoines, c'est quelque chose de beaucoup moins mobile par nature que un revenu d'activité. Hein. Donc, ce qu'on constate vraiment, c'est que la distribution des patrimoines est essentielle pour appréhender la mobilité globale d'une société en termes de revenus et en termes de richesse. Ça pose, à mon avis, vraiment la question de savoir dans quelle mesure on doit encourager une plus grande fluidité des patrimoines. En particulier, c'est vraiment une question centrale hein, pour les Américains qui, constatant cette hausse absolument incroyable des inégalités, se posent la question de savoir si, bah, comme le veut l'administration Bush, il faut abolir totalement les droits de succession, ou au contraire, pour préserver une forme de mobilité aussi d'incitation, hein, on voit des milliardaires Warren Buffett, au contraire, lutter contre ce mouvement de baisse de la fiscalité sur les successions, parce qu'ils savent très bien qu'on va encourager la formation de très très gros patrimoines qui ne sont pas forcément productifs au niveau macro-social. Hein, donc je pense que vraiment c'est un enjeu pour la France, qui est plutôt du point de vue idéologique aujourd'hui engagé sur l'idée qu'on a l'imposition des patrimoines et des successions qui est trop forte. On a voté en particulier le paquet fiscal avec des très très fortes mesures pour réduire l'imposition des successions. Ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, par nature, on avait déjà 90% de successions qui étaient exonérées. Donc la question, c'est vraiment, est-ce qu'il faut aller plus loin dans ce mouvement, à l'instar des États-Unis, ou pas?